L'homme qui a tué Sarah Halimi en 2017 à Paris après l'avoir roué de coups ne sera donc pas jugé aux assises. La justice l'a déclaré pénalement irresponsable la semaine dernière. La cour d'appel évoque l'abolition du discernement du suspect sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits. Une bouffée délirante liée à une forte consommation de cannabis. Cette décision provoque une forte émotion en raison du caractère antisémite de ce meurtre. Avant-hier, dans le Figaro, le grand rabbin de France, Haïm Korsia, lançait un appel à la garde des sceaux pour qu'un procès ait lieu. Alors comment comprendre la mécanique qui a conduit à cette décision? Pour en discuter, Didier Rebu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit à l'université Panthéon-Assas, spécialiste de droit pénal. Alors on a un petit peu de mal, je dois dire, alors quand on n'est pas un spécialiste du droit en tout cas, à comprendre la décision de la Cour qui reconnaît qu'il y a des charges suffisantes contre le suspect d'avoir volontairement donné la mort, c'est-à-dire ça c'est reconnu. Elle reconnaît la circonstance aggravante d'antisémitisme, mais elle le déclare pénalement irresponsable. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut avoir cette décision finale? Et d'abord, peut-être, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'être déclaré pénalement irresponsable?
Alors, être déclaré pénalement irresponsable, c'est-à-dire, ça veut dire que dans cette hypothèse-là, les juges considèrent que l'individu n'était pas dans une situation qui permet de lui demander des comptes de ce qu'il a fait, parce qu'il a agi sous l'empire d'un trouble psychique ou neuropsychique, dit la loi, qui a aboli son discernement. Donc, en fait, ça renvoie au fondement moral de la responsabilité pénale. Il n'y a pas de responsabilité pénale pour les fous, si je puis m'exprimer ainsi. Évidemment, ce n'est pas le vocabulaire médical d'aujourd'hui, mais une personne atteinte de folie, une personne qui commet une infraction sous l'empire d'un état de ce que l'on appelait auparavant la démence, n'est pas pénalement responsable. Alors on constate qu'elle a bien commis les faits, ça il n'y a pas de doute, c'est elle qui a agi, c'est elle qui a commis l'infraction, mais elle n'est pas pénalement responsable.
Il le reconnaît d'ailleurs.
Tout à fait, ça ce n'est pas contesté, mais elle n'est pas en état de rendre des comptes sur le plan pénal.
Y compris s'il y a circonstances aggravantes d'antisémitisme, c'est-à-dire que voir accoler circonstances aggravantes et pénalement irresponsable, c'est compliqué à comprendre.
Oui, on peut le comprendre parce que la circonstance aggravante d'antisémitisme renvoie à un mobile et on a l'impression que le fou c'est quelqu'un qui n'a agi sans mobile. En fait, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que la question qui se pose sur le plan médical et dont le droit prend en compte, c'est la question de savoir est-ce que l'individu était libre de ses actes au moment où il a agi. Est-ce qu'il était déterminé ou pas? Ça renvoie à la question philosophique du déterminisme. L'individu qui est déterminé à agir n'est plus pénalement responsable parce qu'il n'avait pas de libre arbitre.
Alors cette décision, elle a été rendue suite à des rapports d'expertise. Est-ce que c'est toujours le cas d'ailleurs, Didier Rebu? Est-ce qu'il y a toujours un ou des experts lorsqu'il y a un meurtre qui évalue l'état psychique du suspect?
Oui, tout à fait. La loi prévoit une expertise lorsqu'il s'agit d'un crime, notamment ce qui est le cas pour un meurtre. Et dès lors qu'en plus il y a les circonstances ici qui ont été révélées, qui sont établies, il y a eu plusieurs expertises. Mais là, la mise en place d'une expertise est obligatoire.
Là, il y a eu des divergences entre les experts, non pas sur le constat d'une bouffée délirante, mais sur les conclusions qu'ils en tiraient. Certains disaient c'est abolition du discernement, dans ce cas-là, pas de procès, ou simple altération. Là, il peut y avoir un procès. Et j'évoquais la tribune du grand rabbin de France, Haïm Korsia. Il y a une question que je trouve intéressante dans sa tribune. Il dit « Pourquoi l'emprise de la drogue constituerait-elle ici une circonstance atténuante, voire excluante? Ne serait-ce pas précisément l'inverse ? Pourquoi un automobiliste, par exemple, ayant causé un accident sous l'effet de stupéfiants, écope, lui, d'une circonstance aggravante, Didier Rebu?
Oui, c'est une question. C'est une question qui n'est pas tranchée là. C'est-à-dire que, effectivement, le grand rabbin pointe une difficulté, c'est-à-dire que la prise de stupéfiants, effectivement, n'exonère pas le conducteur d'un véhicule automobile de sa responsabilité pénale s'il provoque un accident. Et là, on considère que elle l'exonère ou en tout cas, elle n'est pas prise en compte. Donc c'est une question qui n'est pas tranchée par le droit. Et la question étant de savoir, et en fait, c'est semble-t-il ce à quoi sur quoi les experts se sont penchés, c'est-à-dire que la prise de stupéfiants en matière d'accident de la circulation est prise en compte parce que la loi a considéré que l'individu qui prend le volant en ayant pris des stupéfiants sait qu'il prend un risque de commettre une infraction. Et il semblerait, d'après ce que j'ai pu voir dans les médias, que les experts ici, certains ont divergé, en tout cas c'est la position de certains des experts, disent que en prenant ces stupéfiants, l'individu en question, le meurtrier, ne savait pas qu'il s'exposait à commettre un meurtre. C'est le débat. C'est vrai que c'est un débat et on peut en discuter.
ce débat, il aurait pu avoir lieu dans le cadre d'un procès. Là encore, je cite cette tribune d'Aïm Korsia dans le Figaro. « Comment ne pas s'indigner, dit-il, non pas de la décision qui est de la responsabilité des magistrats, mais qu'on l'on empêche le procès. Pourquoi est-ce que ce débat sur la responsabilité, elle n'a pas lieu dans le cadre justement d'un procès plutôt que de... plutôt qu'avant, quoi, et de faire en sorte que ce procès n'ait pas lieu, Didier Rebut.
Parce que la loi prévoit cette possibilité. C'est une loi de 2008 qui prévoit que lorsque le juge d'instruction considère qu'il y a irresponsabilité pénale, eh bien, on peut, l'instruction peut se clore devant, alors cette fois-ci, la chambre de l'instruction, qui est la juridiction d'appel, et qui va se prononcer sur cette irresponsabilité pénale. C'est vrai que c'est la loi prévoit cela. C'est donc les juges ont appliqué la loi. Ça ne veut pas dire que leur décision est fondée. La Cour de cassation va se prononcer sur cette décision, mais la loi prévoit tout à fait cela. Mais il est vrai que si il devait y avoir finalement un renvoi devant une cour d'assises, si la Cour de cassation venait à casser la décision de la chambre de l'instruction, le même débat aurait lieu cette fois-ci devant la cour d'assises. La cour d'assises serait également compétente pour examiner s'il y a eu abolition du discernement ou pas et pour entendre les experts.
Parce que là, il peut encore y avoir effectivement un procès si ça va en cassation. Hein, c'est ça.
Alors, la Cour de cassation est saisie. La décision de la Chambre de l'instruction donc va être soumise à la Cour de cassation. Celle-ci examinera s'il y a lieu ou pas d'approuver la décision de la Chambre de l'instruction. Et si elle casse, on retournera devant la Chambre de l'instruction pour une nouvelle appréciation, pour éventuellement, cette fois-ci, aller devant une cour d'assises.
De manière plus générale, Didier Rebut, est-ce que les juges sont tenus de... prendre en compte et en tout cas, les décisions des experts. Alors là, il y avait divergence, hein, mais quand les experts sont tous d'accord sur l'état d'un prévenu, d'un suspect, est-ce que les juges sont obligés de tenir compte de cette décision, d'aller dans le même sens, ou bien est-ce que c'est quand même la libre appréciation des magistrats?
Alors il y a le droit et la pratique. En droit, les juges ne sont jamais tenus de suivre les conclusions des experts. Après, je dirais dans des domaines éminemment technique qui repose sur un savoir qui échappe à celui du juge, comme c'est le cas par exemple en matière médicale. Si vous avez unanimité des experts, il est quand même rarissime que les juges s'écartent de l'avis des experts. La difficulté ici, c'est qu'il n'y a pas d'unanimité. Mais l'office du juge lui permet, son rôle lui permet de trancher entre les experts. Peut-être peut-on penser qu'à partir du moment où il y avait divergence entre les experts, la juridiction de jugement serait plus à même de trancher cette divergence. Mais le juge a tout à fait la possibilité de se prononcer sur les expertises.
Et il y a en un mot une dernière difficulté, même si les juges prennent leur décision en toute indépendance, il y a aussi un contexte médiatique notamment. On voit bien les réactions fortes que suscite cette décision. Ça peut aussi jouer, ça joue parfois, j'imagine, dans les décisions de justice, même si les magistrats vous diront toujours qu'ils n'en tiennent pas compte.
Oh, évidemment que ça joue. Alors c'est vrai que là, le contexte médiatique est surtout apparu après la décision de la Chambre de l'instruction, donc on verra peut-être plus son effet sur la décision de la Cour de cassation. Mais le juge n'est pas coupé de la société, et ça, c'est tout à fait normal, et il doit aussi être en accord avec celle-ci, pas forcément la suivre lorsque dans ses débordements, mais il n'est pas insensible, évidemment, à l'attitude de la société et à ses réactions.
Merci beaucoup, merci. Didier Rebut, de nous avoir apporté tous ces éclairages ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'université Panthéon-Assas et spécialiste, comme on a pu l'entendre, de droit pénal.